pour cet entretien avec Christopher Priest. Il y a une petite vingtaine d'années maintenant, je sortais de la lecture d'un roman en ayant la tête complètement renversée, en me demandant où était la réalité, où était le virtuel. Ça s'appelait Existence. C'était signé Christopher Priest et j'imaginais pas une seconde qu'un jour je me retrouverais sur une estrade assis à côté de lui et j'allais lui poser des questions. Donc, je suis super impressionné. Et on va parler beaucoup de l'adjacent. Le dernier roman de Christopher Priest, mais pour une raison toute simple, c'est qu'on retrouve dans ce livre énormément de thématiques qui ont marqué les autres livres de ce grand auteur de science-fiction. Mais je voulais démarrer en vous demandant, Christopher Priest, quand vous nous emmenez dans cet univers de l'adjacent d'entrée, vous nous placez dans un univers, on était juste avant sur une table ronde, sur les futurs effrayants, vous nous emmenez dans une Grande-Bretagne qui est devenue une république islamiste, dans un monde en proie au terrorisme, aux catastrophes diverses et variées.
versions différentes. Et on peut très bien comparer ça avec l'Église catholique, dont on a des versions, des interprétations différentes aux États-Unis, en France, en Italie, en Pologne, etc. Et donc je me suis dit, à quoi ressemblerait l'islam en Grande-Bretagne? Ben, on aurait une version, on aurait des gens qui jouent au cricket, qui, dans un pays où il pleut tout le temps, et donc dont les vêtements devraient s'adapter, etc. Donc c'est une version britannique d'un pays islamique, une version où l'islam n'est en rien diminué ou altéré ou minimisé. C'est juste une différente forme, une façon différente de le célébrer.
Surtout qu'indépendamment de ce mot islamisme qui nous fait finalement tous peur, c'est un monde qui en soi lui-même déjà est un monde effrayant et post-apocalyptique.
Effectivement, c'est mon intention était également de m'efforcer de montrer un avenir qui était réaliste, où effectivement la météo, le climat empire, où les carburants fossiles sont en train de s'épuiser, etc. Tout mon intention concernant les parties sur l'islam était de présenter un personnage majeur dans l'histoire qui est une femme qui est une fonctionnaire qui s'est élevée très haut dans la hiérarchie du gouvernement. Là, donc, il n'y a plus de gouvernement de la République islamique. Et mon but était de montrer que il y a bien des pays où l'islam est prédominant, où les femmes sont reléguées à un rôle secondaire. Et je voulais montrer que ça n'est pas l'essence de l'islam, puisque dans ce livre-là, et dans la République islamique, on a une femme qui a tout à fait s'élevé très haut dans les rangs.
Et d'autant que les attentats qui se déroulent au moment où le roman s'ouvre, rien n'indique que ce soit des attentats liés à l'islam, finalement. Par contre, ce sont des événements assez mystérieux et assez étranges, dont un a quasiment rayé Londres de la carte. Et dire que finalement il était construit presque comme un recueil de nouvelles. On arrive à un point où on tourne une page, on est à la fin de la partie, et d'un seul coup de cet univers futuriste, post-apocalyptique, on se retrouve dans les tranchées de 14.
See myself doing what I'm normal. Every other pop up the way. Mais en fait, l'une des choses, c'est que j'ai finalement l'impression de préférer d'avoir écrit une espèce de très 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 long roman dans lequel, de temps en temps, je sors un instant, un moment. Ça fait un manuscrit, ça fait un roman qui est publié, mais tous ces thèmes et tous ces romans ont des thèmes et des préoccupations communs qu'on retrouve également dans l'adjacent. Et c'est un peu la même construction de l'adjacent, c'est-à-dire qu'on a une grande partie de l'histoire, une grande partie du roman finalement n'est pas écrite. On en sort là aussi des parties, des instants qui vont constituer cette mosaïque. C'est donc ces mosaïques à chaque fois illustrent le thème de l'adjacence qu'on retrouve à travers le livre. C'est un peu trop compliqué à évoquer comme ça, à récapituler, ne serait-ce que parce que ça fait intervenir la mécanique quantique, qui est un sujet que moi-même je ne comprends pas très bien. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que si vous me faites confiance et si vous vous intéressez à ce que je raconte, allez lire le livre, c'est pour la meilleure chose.
Ah, je veux dire qu'au bout de 100 pages, on se demande où on est. On avance de plus en plus, au bout de 200 pages, on est toujours autant perdu. Et puis petit à petit, on se rend compte que ça s'assemble. Et que ça donne quelque chose. On y reviendra un peu plus tard parce qu'on finira avec ça. Mais puisque vous avez évoqué la présence et le passage de Herbert George Wells, on va en parler maintenant. Que représente Herbert George Wells pour vous? H.G. Wells, déjà, il a plus ou moins inventé la science-fiction moderne. C'était un excellent écrivain, ne serait-ce que d'un point de vue stylistique, et en plus, évidemment, du point de vue des idées. Je pense qu'il a écrit la plupart de ses meilleurs romans quand il était jeune, ce qui était vers la fin du 19e siècle. Mais il a eu une longue carrière ensuite qui a suivi, mais ces deux romans qui ont suivi, je pense, peu d'entre eux sont aussi intéressants que ses premiers. Ça n'empêche pas que je lui porte une grande révérence, parce qu'il a apporté une véritable fraîcheur à la littérature anglaise. Il y a quelques années, me concernant, je me suis trouvé dans une espèce de crise concernant mon écriture. Qu'est-ce que j'allais faire ensuite? Je me trouvais confronté en tant qu'auteur britannique, confronté à un raz-de-marée toujours continuel et toujours plus imposant de science-fiction venu des États-Unis. Et il faut savoir que la compréhension américaine de la science-fiction est assez générique. Elle est fondée fortement sur des règles, sur une certaine forme d'orthodoxie, sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on ne peut pas dire. Et je me trouvais de plus en plus inhibé par cet état de fait. Donc, l'idée a été d'essayer de trouver une façon de me réinventer, un peu de la même manière que ce que Wells lui-même aurait pu faire, ou avait fait, de la même manière. C'est-à-dire que même si je connais le genre de la science-fiction, j'essaie de trouver une façon qui me permettrait de m'en libérer comme auteur. Et donc, du coup, je m'efforce de rendre hommage à Wells à chaque fois que je peux. Vous le mettez dans une position.
guerre, c'est finalement l'expression qu'on disait souvent, c'est-à-dire que ce sera la dernière guerre, la guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Et en fait, au début, la position d'Orwell, c'est finalement assez peu connue, c'est-à-dire qu'il est relativement en opposition par rapport à ce qu'on imagine de lui, c'est-à-dire qu'à l'époque, au début, il était tout à fait favorable à cette guerre, il était très opposé à l'idée d'avoir un Kaiser qui s'élève au pouvoir en Allemagne. Il le voyait d'un très mauvais œil, le fabricant d'armement Krupp. Il voyait ça comme un ennemi très menaçant. À son avis, l'Europe devait combattre. Et en fait, il avait deux fils qui le voyaient grandir, et au fur et à mesure qu'il grandissait, il a fini par se dire que ses enfants allaient devoir partir à la guerre. Il a fini par voir la Première Guerre mondiale pour ce qu'elle était, c'est-à-dire tout simplement un massacre de gens. Et à partir de là, il a changé d'opinion, il est devenu très opposé à la guerre. Et je me suis efforcé de le démontrer, de le représenter plus ou moins à ce stade, plus ou moins à ce point de basculement. Il y a un livre moins connu de Wells, beaucoup moins connu, qui est Mr. Britling Sees It Through, c'est-à-dire Mr. Britling soit voit la vérité, soit traverse l'épreuve, le titre en a deux sens, qui représente pas mal en fait justement cette phase de changement de point de vue.
Et vous allez plus loin dans l'hommage, puisque l'adjacence, vous l'évoquez comme l'arme qui mettra fin à la guerre.
Souvent du terme de la notion d'adjacence dans le livre, c'est-à-dire il y a une arme fondée sur ce concept. En fait, à la base, c'était développé comme un moyen de défense. L'idée, c'était quelqu'un vous jette une pierre dessus, vous tire dessus, vous balance une arme nucléaire à la figure. La façon de gérer cette agression, c'est pas de détruire la pierre, la balle ou l'arme nucléaire, mais tout simplement c'est de la faire se décaler dans un univers adjacent. L'idée d'origine un peu utopique, c'était que chacun à terme serait équipé de son propre générateur de champ d'adjacence portatif, et que donc personne ne pourrait faire de mal à personne. Malheureusement, évidemment, l'arme tombe en mauvaise main, elle passe du côté obscur, comme on dit de nos jours, et il y a des gens qui développent ce concept comme une arme. Et c'est l'idée, c'est-à-dire qu'au début, on a des terroristes extrêmement extrémistes qui utilisent cette arme pour tuer des gens, c'est-à-dire les décaler dans une dimension adjacente. Et donc, le roman parle beaucoup de la découverte de cette dimension adjacente pour les belles et celles de Wells.
Votre personnage de H.G. Wells, il se trouve qu'il rencontre un peu par hasard et qu'il va devenir un peu le mentor d'un autre personnage. Et on va revenir à ce qu'on disait au début, c'est que ce personnage est un illusionniste, ce qui va rappeler quelque chose. Qui a une particularité, c'est que il a été enrôlé pour une mission très particulière.
se méprennent et passent un certain nombre de choses, dont et la magie, l'illusionnisme en fait partie. L'idée, c'est que dans l'illusionnisme, dans la magie scène, ce qui se passe sur la scène, ce qu'on voit, n'est pas ce qui se déroule réellement. Il y a une partie où, justement, l'idée qui est construite comme un dialogue principalement entre Wells et ce personnage central, l'illusionniste. Et la façon dont ce personnage se retrouve embringué dans la guerre, c'est qu'un soir, il faisait son spectacle sur une scène londonienne, et un de ses tours consistait à faire disparaître son assistante. Et dans le public, il y avait un officier de la Navy qui était très impressionné par ce qu'il a vu et qui lui a donné le travail de faire disparaître les soldats, ou du moins l'aviation anglaise, puisqu'à l'époque, la Navy s'occupait également de faire voler les avions. Sur l'idée que si les Allemands ne peuvent pas nous voir, alors à ce moment-là, nous allons gagner la guerre. Et donc, on a ce magicien qui se retrouve avec le travail de voir en aviation britannique invisible. Et malheureusement, il se trouve confronté au fait que ce n'est pas possible, parce que tout cela n'est qu'un tour de scène. Comme vous pouvez le voir, c'est d'ailleurs extrêmement fier.
Ça nous amène encore à un autre thème que vous avez déjà exploré, qui est celui de l'aviation, et qui tient une place très importante également dans l'adjacent, dès la couverture, puisqu'on a un Spitfire. Christopher Price, j'ai pensé à vous il y a quelques semaines, j'ai vu un article dans la presse d'une ancienne pilote qui a aujourd'hui 92 ans et qui est remontée pour la première fois dans un Spitfire depuis la guerre. Ça m'a... Je venais de lire l'adjacent, et évidemment, je n'ai pas pu faire autrement que faire le lien, puisque vous avez un personnage qui est, là encore, un personnage féminin très fort, qui se retrouve à piloter des Spitfire.
Je lui ai dit, je vais chuchoter.
Pose-moi des questions sur la colonnette. Mais ça vient, ça vient.
L'histoire de la classe est finalement une histoire assez simple, c'est une histoire d'amour, puisque c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme, qu'il aime, et qui se part à sa recherche. C'est une longue recherche. Dans une des séquences de cette recherche, je parle de quelque chose qui finalement est assez peu connu sur la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'aviation britannique employait des pilotes civils pour amener les avions sortaient de l'usine jusqu'à la base aérienne où ils seraient utilisés pour la guerre. En fait, beaucoup de ces pilotes civils étaient des femmes ou des personnes qui venaient de pays qui avaient été envahis par l'Allemagne, notamment la Pologne. Et donc, il y a cette histoire, cette séquence dans l'adjacent où on suit la vie de cette, de cette femme, de cette Polonaise, qui fuit vers la Grande-Bretagne, qui devient pilote d'avion. Et en fait, c'était extrêmement impressionnant, puisqu'en fait, elles étaient censées piloter d'énormes avions à des quadrimoteurs de l'armée, qui sont normalement des avions qui sont conçus pour être volés avec un équipage de 7 personnes, et qui le volaient seul, qui le faisaient voler seul. On n'avait pas le droit d'avoir une pilote d'art, il n'y avait pas de radio. En fait, elle le pilotait en regardant par la fenêtre et en reconnaissant le tracé des rivières, des champs, jusqu'à leur destination. Et aucune d'entre elles n'a été tuée. Il y a eu quelques accidents et quelques-uns de ces avions se sont écrasés. Ce sont des histoires qui m'ont extrêmement ému. Ce sont des personnages formidables, des femmes extrêmement fortes, extrêmement intéressantes. Là, ça m'a beaucoup ému, donc c'est pour ça que je voulais en parler.
C'est un personnage magnifique, cette pilote polonaise, parce qu'elle est émue à la fois par l'amour profond qu'elle a pour un homme, alors que leur histoire a quand même été assez complexe, même avant que la guerre ne débute. Et puis surtout, elle a cette passion de l'aviation chevillée au corps.
Son rêve, cette femme, c'est de piloter un Spitfire, et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment inventé à l'époque. Beaucoup de femmes trouvaient que le Spitfire était un avion extrêmement sexy. Quand elle pilotait, elle disait que vraiment, ça faisait pas partie de leur corps, que c'était une autre partie de leur corps, et que c'était pas tellement elle qui les pilotait que l'avion qui les pilotait elle. Le livre, j'ai ce personnage dont le rêve, c'est de piloter un Spitfire, et la première fois qu'on lui ordonne d'apprendre, elle part avec, elle le vole.
Là encore, dans une période de guerre, elle se succède finalement dans le livre, que ce soit la période contemporaine ou la période passée. Et puis on a même à un moment un voyage sur une île qui s'appelle Pratchus. On sent bien que là aussi, il n'y a peut-être pas forcément une guerre en cours. Mais en tout cas, on sent que c'est passé des choses aussi sur cette île. J'avais envie de vous demander en lisant les livres, je me suis posé la question, comment un festival qui est très orienté fantasy, est-ce que cette nouvelle-là n'est pas une nouvelle de fantasy?
Toute la fiction relève du fantasme en un sens, du double sens de fantaisie. Toute littérature relève de ce courant de pensée-là, même si une partie est plus à des aspects fantastiques, plus développés que dans d'autres. Je pense que cet aspect fantasmagorique dans mes romans est probablement plus interne, plus relié à un aspect émotionnel. Dans l'ensemble, j'aime pas la fantaisie, entre guillemets, mécanique, c'est-à-dire les choses comme Game of Thrones, etc., même si tout le monde aime ça. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas aidé. Je suis navré, je ne sais pas très bien comment répondre.
Mais c'est aussi un moment où on a l'impression d'être un peu en dehors du reste du roman, parce qu'on a beaucoup moins la présence de la technologie, qu'elle soit très avancée ou qu'elle soit plus rudimentaire, je pense à l'aviation lors de la Première Guerre mondiale.
on retrouve la magie aussi sur cette île, enfin l'illusion en tout cas, et on est dans quelque chose de un peu plus archaïque. Je connais très bien l'illusionnisme. Ça, c'est quelque chose de bien sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré beaucoup de magiciens, j'ai vu beaucoup de spectacles de magie. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la façon dont ils réalisent les tours. Ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, parce que j'ai découvert de toute façon comment la plupart de ces tours sont exécutés. Si vous lisez le Prestige, il y a à peu près 5 tours fondamentaux que qu'on peut réaliser sur scène et qui sont à peu près les seuls qu'on puisse faire. On trouve la liste dans le Prestige, ils sont expliqués comme une excellente raison de faire un livre.
C'est qui se veut dire ça?
Sorry. je pense que la plupart des gens ici partagent la compréhension intellectuelle que rien de ce qu'on voit sur scène, l'illusionnisme n'est réel. Et tout cela repose sur une illusion savamment préparée. Mais parfois, c'est vrai quand même, enfin, un spectacle, on voit un tour qui défie l'entendement. On comprend vraiment pas ce qui se passe. Bien sûr, je pense qu'il n'y a personne normalement qui se dit qu'il y a véritablement une forme de sorcellerie qui s'est déroulée sur scène, mais quand même on ne comprend pas comment ils ont fait. Et même si intellectuellement on comprend que la majorité, évidemment tout ce qu'on voit repose sur en fait des manipulations qui sont extrêmement simples, que ce soit de l'adresse ou de la manipulation de l'attention du public, mais c'est véritablement un talent extraordinaire.
Et justement, pour bien montrer que non, l'adjacent n'est pas un grand fourre-tout, mais qu'il y a bien une cohérence globale, l'intervention de la magie, elle n'arrive pas par hasard, c'est que finalement, vous faites le parallèle entre l'adjacence et la magie, parce que ça fonctionne un peu de la même façon.
C'est de savoir qu'il y a une pièce de théâtre à Londres qui va bientôt commencer, qui est basée sur le prestige, qui est une adaptation. Et le défi, c'est qu'ils vont aller sur un certain nombre de tours de magie qui sont décrits dans le roman. Mais pour réaliser cette pièce, pour des raisons évidentes, il faut qu'ils emploient des acteurs et pas des magiciens. D'ailleurs, des acteurs dont la plupart sont assez célèbres, dont vous reconnaîtriez le visage. Et le défi, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions dans le prestige qui reposent sur l'utilisation du sosie. Etc. Et ça représente un défi technique assez colossal. Et je suis très impatient de voir comment ils se sont tirés.
Alors finalement, ce qui est très important dans l'adjacent, c'est d'être très attentif au point de vue qu'emploie la narration finalement. Parce que ça repose aussi beaucoup là-dessus.
Yes, I said the name is very important.
avec Prestige, j'ai conduit des entretiens avec beaucoup de magiciens, avec un en particulier qui est assez célèbre. Il ne m'a jamais dit ses secrets, mais il m'a parlé de technique, ce qui est différent. Et il m'a raconté une histoire où, quand il allait au restaurant avec sa famille, pour dîner par exemple, et fréquemment des gens qui le reconnaissaient, qui lui disaient hey, allez, faites-moi un tour s'il vous plaît. Et du coup, il avait pris l'habitude d'aller dans le restaurant avec un jeu de cartes, et il cachait avant de dîner une carte quelque part sur la table, dans un pot de fleurs, etc. Et s'il ne se passait rien, il avait perdu sa carte. Mais si les gens arrivaient à lui demander un tour, il était prêt.
Il y a une scène où on voit le prix Nobel qui a théorisé la jazz, finalement, faire la démonstration au photographe, qui est le premier personnage que l'on rencontre dans le roman, de ce qu'est la jazz sense. Et finalement, nous, quand on regarde ça de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est un tour de passe-passe, en fait.
En fait, ce prix Nobel, le personnage de physicien qui est la personne qui a théorisé la jacence, il est pas mal fondé sur l'Oppenheimer, le scientifique de Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a pris conscience de l'ouverture de la boîte de Pandore alors qu'ils étaient en train de réaliser l'arme nucléaire, et qui a dit ce qu'on fait est mal, il faut qu'on arrête. Et évidemment, il avait raison, c'était mal, et bien sûr, ça s'est pas arrêté. Et maintenant, nous avons des armes nucléaires. Donc, je vois beaucoup Rietveld comme ce personnage un peu fondé sur Oppenheimer qui prend conscience, qui théorise ce sens de la sens, qui comprend ce que ça peut donner et qui essaie d'arrêter les choses mais qui n'y arrive pas.
On arrive presque au terme. J'ai encore une question, même si on a pas abordé la chose. On est pratiquement dans chaque partie de ce roman dans un contexte très grave, très lourd, souvent en guerre, et en même temps, on se rend compte quand on a terminé le livre qu'on vient de lire un roman d'amour. Est-ce que c'est pas ça l'adjacence? Seulement beaucoup, beaucoup de choses à explorer à l'intérieur, mais qu'en plus, il y a énormément de portes qui peuvent s'ouvrir sur les autres livres et le travail plus global. J'ai ouvert en parlant d'existence, où j'étais sorti à la fin du livre en me demandant où était le réel, où était le virtuel. J'ai exactement retrouvé ça dans l'adjacence, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, je ne sais plus vraiment où est le point de départ et où est le point d'arrivée.
jour. Et puis, Fabrique, assez évidemment, les romans. Merci beaucoup.